territoire en République démocratique du Congo, il est de plus en plus difficile de voyager entre les zones contrôlées par le mouvement AFC-M23 et les territoires sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. Cette situation est due à une directive du gouvernement congolais datant de juin 2025. La Direction générale d'immigration, déjà en sigle, a demandé aux compagnies aériennes, dans une instruction du 6 juin, de refuser tout document de voyage émis par l'AFCM23 depuis Bukavu ou Goma. Certains médias rapportent que la RDC aurait également fait pression sur les pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour qu'ils n'acceptent que les passeports délivrés à Kinshasa comme documents de voyage légaux. Selon certains observateurs, cette mesure a pour conséquence de restreindre la liberté des mouvements des milliers de personnes. Quelle est-elle, faites-vous, de la décision prise par le gouvernement congolais? Nous en parlons avec Valérie Makwanza, il est conseiller juridique du directeur général de la Direction générale d'immigration, DGM au sigle. Monsieur Makwanza, bonsoir. Maître Joseph Dunia Runyezi, avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu. Il est membre de la société civile congolaise et membre de l'ONG Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme, PDH en sigle, basé à Goma, au Nord Kivu. Maître Joseph Dunia, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Aussi avec nous dans ce débat, Jocelyn Mubawa, professeur à l'Université de Goma et à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il est spécialiste, je voulais dire, il est spécialiste en droit des médias et en droit de l'homme. Professeur Mubawa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
On a du mal à vous suivre. On espère que la ligne va s'améliorer. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, en RDC, la difficulté de voyager entre la zone occupée par le mouvement AFC-M23 et le territoire sous contrôle de Kinshasa s'accroît de plus en plus. La situation est consécutive à l'instruction donnée depuis début juin 2025 par le gouvernement congolais aux compagnies aériennes. Dans une instruction du 6 juin dernier, la Direction générale des migrations a instruit les compagnies de refuser tout document des voyages délivrés par la FCM23 depuis Bukavu et Goma. Enoch Katumbi nous en dit plus.
Après un long moment d'explication, tout document CPGL ou tenant lieu des passeports avec lesquels nous voyageons en provenance de Goma et Bukavu nous ont été saisis à l'aéroport d'Ndjili par les agents de la DGM avant que nous soyons autorisés à entrer à Kinshasa. Témoignage sous anonymat d'un agent public qui est arrivé la semaine dernière à Kinshasa en provenance de Bukavu. Selon celui-ci, les agents des migrations exigent aux détenteurs du document de voyage délivré par l'AFCM23 de s'arranger pour trouver des documents pendant leur séjour à Kinshasa, ce qui pour lui est un autre défi avec la difficulté actuelle d'accéder au passeport congolais. Cette instruction annoncée par la DGM Kinshasa aux compagnies aériennes depuis le 8 juin dernier de refuser les passagers venant de l'Est du Congo avec les documents de voyage excepté le passeport prend de plus en plus une ampleur inquiétante. Pour d'autres témoignages, dans certains autres pays de l'EAC, on ne fait plus aucune distinction si les documents CPGL ou tenant lieu des passeports est issu de l'AFCM23 ou du gouvernement. Pour être identifié comme congolais des Goma ou des Bukavu, plusieurs passagers en transit à Addis Abeba ont récemment été bloqués pendant des longs moments à l'aéroport, ce qui alourdit la situation des habitants de l'Est au moment où les passeports ne sont délivrés qu'à Kinshasa et ne sont pas à la portée de tout le monde. Face à cette guerre et occupation d'un vaste territoire par la rébellion qui semble se pérenniser, l'autre moyen de quitter Goma ou Bukavu jusqu'à Kinshasa pour ceux qui n'ont pas de passeport est de trouver un laissez-passer consulaire, des documents à acheter dans les ambassades, soit à Bujumbura, Kampala ou Nairobi. Recommande d'autres acteurs.
Merci Enoch Katumbi pour tous ces détails. Valérie Makwanza, je rappelle que vous êtes conseiller juridique du directeur général de la Direction générale des migrations, DGM en sigle. Avant d'aller dans le vif de notre débat de ce soir, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la teneur exacte de l'instruction de la DGM?
Merci madame pour l'invitation que vous nous avez adressée. Alors, il faut savoir par principe que l'accès aux engins ou aux embarcations qui ramènent les personnes sur le territoire de la République démocratique du Congo est conditionné par la possession de ce que nous appelons des documents de voyage.
Okay.
Alors, les documents de voyage peuvent être, par exemple, la carte nationale d'identité. En ce qui nous concerne, il s'agit du document de la CENI, la carte d'électeur, qui n'est valable que pour les populations frontalières, hein, des frontières juxtaposées jusqu'à un certain kilométrage à l'intérieur des terres. Il y a aussi ce qu'on appelle les laissez-passer individuels, qui est établi dans le cadre de ce qu'on appelle le régime frontalier spécifique. Dans ce que nous appelons les provinces frontalières, par exemple Kinshasa et Brazzaville. Et évidemment, il y a le passeport national, qui est le document de voyage par excellence. Et il y a ce que nous appelons les laissez-passer tenant lieu de passeport, qui depuis un certain temps a été mis en circulation par la DGM, qui répond aux normes de l'OACI et aux recommandations de la East African Community. Alors, ce sont ces documents-là qui sont les documents avec lesquels on peut accéder sur le territoire national en provenance de l'étranger. Alors, en ce qui concerne, pour ne pas prendre beaucoup de temps, en ce qui concerne l'instruction
du 6 juin 2025,
nous nous sommes rendus compte, d'abord, il ne faut pas faire une fixation sur des documents qui seraient émis par une certaine rébellion, quand on sait qu'une rébellion n'est pas par essence une autorité habilitée à produire des documents. On ne va pas faire une fixation sur ces documents-là, qui sont des documents faux. Nous nous appuyons sur tous les faux documents, ce n'est pas seulement ceux qui sont établis par la rébellion. Parce que peut-être pour vous informer, si vous ne le saviez pas, il existe des réseaux dans les pays limitrophes, que ce soit au Burundi, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Kenya, où des individus mal intentionnés fabriquent et mettent en circulation des documents avec les logos de la Direction Générale des Migrations ou plus généralement du pays. Alors, vu qu'il y a une situation de fait où le gouvernement ne contrôle pas des vastes zones du territoire, et vu l'impact de cette situation sur la sécurité du pays, le gouvernement a été appelé à prendre cette décision, qui n'est pas une décision radicale, puisque tous ces pays-là, qui sont limitrophes à notre pays, ont des ambassades qui fonctionnent dans ces pays-là. Et nous avons des documents, qui sont des documents, par exemple les documents CPGL, qui sont des documents intercommunautaires, si je peux dire ça, hein, qui sont établis conformément aux arrangements du pays avec les autres pays dans le cadre des communautés sous-régionales. Donc, en gros,
est-ce qu'on retient, monsieur Makwanza, que cette décision a été motivée non seulement parce que il faut prendre parce qu'il s'agit d'une mesure sécuritaire, mais aussi parce qu'il faut lutter contre la fraude.
Bien
à
sûr.
Cause de tous ces faux documents qui bien circulent.
Déjà,
mais pourquoi vous prenez cette décision maintenant seulement?
Déjà, madame, cette décision n'est qu'un rappel. Parce que toutes les compagnies aériennes savent que pour qu'un Congolais ou un étranger puisse accéder dans un aéronef pour solliciter l'entrée sur le territoire de la RDC, il doit avoir des documents valides. Alors, La situation précise ici, c'est que nos compatriotes ne peuvent plus rejoindre Kinshasa par des vols directs. Ils sont obligés de passer par les pays limitrophes. Or, dans ces pays limitrophes-là, la RDC a des ambassades. Alors, nous ne pouvons pas maîtriser le fait qu'ils puissent sortir de Goma ou de Bukavu ou d'ailleurs avec des documents établis par on ne sait qui. Ça, on ne peut pas contrôler. Mais nous avons le devoir de contrôler avec quels documents les personnes entrent sur le territoire de la République.
Alors, on a déjà un souci avec la délivrance des passeports. Comment ces gens-là vont faire pour s'en procurer? Madame, est-ce que dans toutes les ambassades, les passeports sont disponibles?
Non. Pour qu'un Congolais puisse revenir dans son pays, il n'a pas besoin de passeport. Un sauf-conduit suffit. Nous sommes les services de l'État, nous travaillons en synergie. Nos ambassades sont appelées à prendre toutes les dispositions utiles pour que nos compatriotes qui partent de ces pays-là pour venir ici aient des sauf-conduits facilement. Je prends un exemple, lorsque nos compatriotes qui sont par exemple en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde sans passeport veulent revenir au Congo, ça n'a jamais posé aucun problème. Ils vont dans nos ambassades, on leur délivre des sauf-conduits pour le retour au pays.
Alors ça, on va essayer d'être un peu plus clair, par rapport à cette question. Quels sont les documents que les Congolais qui quittent par exemple Goma, Bukavu, en passant par un pays frontalier pour arriver à Kinshasa, quels sont les documents qu'ils doivent détenir?
De manière schématique, je dirais, je viens de citer tous les documents de voyage ici. Le principal document de voyage, c'est le passeport. Nous comprenons que la plupart de nos compatriotes n'ont peut-être pas le passeport. Généralement, en temps de paix, nos compatriotes circulaient là-bas avec un document qu'on appelle CPGL. Oui. Les laissez-passer de circulation CPGL. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les laissez-passer tenant lieu de passeport. Aujourd'hui, la DGM fonctionne en province du Nord Kivu à Beni. Tous ceux qui prennent un laissez-passer tenant lieu de passeport à Beni ou un laissez-passer CPGL à Beni n'ont aucun problème. Alors, pour les autres qui passent par les pays comme le Kenya, comme le Burundi, comme l'Ouganda, pour ceux qui ont, avant que la mesure ne soit rappelée, pas prise, parce que c'est ça la loi, c'est un rappel. Avant ce rappel-là, quand les personnes arrivaient sur place, ce que nous faisions, nous retirions de la circulation ces documents que nous jugions faux. Mais il a fallu prendre des mesures urgentes, parce que ces documents-là sont établis notamment par des personnes sans aucune qualité et en territoire étranger. On ne peut pas accepter que le territoire de la République ne soit une passoire.
Alors comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que c'est restreindre la liberté des mouvements des milliers de personnes, ce rappel, cette décision ou ce rappel de la DGM?
Oui, vous savez madame, la DGM est un service d'application des lois du pays. Hein, notamment en matière d'entrée, de séjour et de circulation à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie du territoire. Donc, vous savez que toute liberté doit être encadrée. On n'a pas dit que parce que les gens sont libres d'aller et de venir, qu'ils doivent aller et venir à n'importe quelle condition. Ça, ce sont juste des mesures qui sont prises par le gouvernement pour encadrer cette circulation au mieux des intérêts de la République.
On vous garde encore dans cette émission, Valérie Makwanza. Le temps pour nous de donner la parole à Maître Joseph Dunia, qui est avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu, membre de la société civile congolaise et membre de l'ONG Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme, PDH en sigle. Maître Joseph Dunia, comment vous analysez, quelle est votre lecture de ces mesures prises par le gouvernement congolais?
Merci Madame la journaliste Kelly. La mesure prise par le gouvernement congolais le 6 juin 2025 visa à conditionner l'accès au territoire congolais par les documents délivrés uniquement par les gouvernements, ça suscite beaucoup de soucis et on a l'impression que le gouvernement voudrait refuser ses citoyens et en quelque sorte susciter le manque de sympathie à l'égard du gouvernement parce que le peuple qui vit à l'est du Congo ne peut pas être rendu victime par le fait de la présence des groupes armés que le gouvernement n'a pas su défaire ou pris des précautions avant que les rebelles M23, l'HCM23 prennent cette grande étendue. Et vous comprenez que cette grande étendue est habitée par des citoyens congolais et qu'il est inacceptable et incroyable que le gouvernement ait été induit en erreur. On ne sait pas si les conseillers, de façon politique, sécuritaire, et l'envie d'attirer la sympathie de la population de l'Est du Congo, et les empêcher à circuler librement, à faire ce qu'il est le commerce, on ne comprend pas. Et même lorsqu'on lit cette instruction, qui n'admet pas d'exception, comme les cas humanitaires des malades, je crois que quelque part, on peut comprendre que le gouvernement congolais a été induit en erreur. Je comprendrais, par exemple, que le gouvernement identifie ou bien fiche des membres de l'AFCM23 qui arrivent sur l'aéroport de Kinshasa, mais empêcher un citoyen qui voudrait quitter une partie de son pays vers une autre partie et qui ne participe pas à un mouvement insurrectionnel. Quelque part, je crois que les conseillers au niveau du gouvernement élisent ce nouveau gouvernement en erreur parce que ce n'est pas de la faute des citoyens congolais qui habitent de ce côté. Vous pouvez imaginer les distances que peuvent parcourir les citoyens en provenance de Goma pour joindre Beni. Je crois que ce n'est pas réaliste, c'est la mesure prise par le gouvernement. On a l'impression qu'on voudrait provoquer les citoyens à un désamour contre le gouvernement parce que si on est réaliste on sait que par exemple pour les habitants, les citoyens qui sont à Bukavu, la seule sortie c'est le Rwanda et la seule sortie vers Goma c'est toujours Gisenyi et à Bukavu c'est la province de Kamembe et donc ceux qui ont pris cette mesure, je ne sais pas s'il n'y a pas parmi eux dans les bureaux de la DGM au niveau du gouvernement s'il n'y a pas des ressortissants de l'Est qui devait guider ou conseiller les gouvernements à tenir compte qu'il y a les citoyens de l'Est qui n'ont que seule sortie que la partie rwandaise de Kamembe, la partie rwandaise de Gisenyi. Parce que lorsque vous voyez la distance qu'il y a entre Goma et Beni, c'est plus de 300 km. Et comment y arriver si vous êtes malade, si vous avez des urgences? Je crois que quelque part, le gouvernement serait appelé à annuler cette mesure en urgence parce que ce serait en quelque sorte encourager la population à être derrière les M23 et au besoin peut-être pressé à ce que tout le monde se rallie à ces mouvements parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement qui sait que ce ne sont pas les citoyens qui ont provoqué la guerre. Toute la population ici, cela ne veut pas dire qu'ils sont membres de l'AFCM23. Et pourquoi punir la population qui n'a pas commis de faute?
Alors, vous estimez que c'est punir une punition, punir la population de l'Est? Vous avez suivi le délégué de la DGM qui a expliqué que ce n'est pas une nouvelle mesure, une nouvelle décision, c'est juste un rappel. Donc, en plus d'être prise pour des raisons de sécurité, mais il y a aussi c'est la lutte aussi contre la fraude, il estime, voilà, il nous informe qu'il y a beaucoup de faux documents qui circulent dans cette partie de la République.
Oui, c'est ce que j'ai voulu expliquer en relevant que le gouvernement n'a pas tenu compte du fait qu'il n'y a pas d'autres voies de sortie en dehors de Gisenyi pour les habitants de Goma et en dehors de Kamembe pour les habitants de l'Ouest. Et même lorsque vous vous êtes présenté à des agences, à des compagnies d'aviation, et même dans les autres pays, tout le monde ne peut pas comprendre qu'un gouvernement prenne des mesures qui punissent, qui limitent les libertés de ses citoyens, et des citoyens qui n'ont pas commis de fautes. Vraiment, quelque part, je crois qu'il y a urgence d'appeler le gouvernement à revoir cette mesure. Je comprends le souci de protéger la souveraineté, mais la souveraineté aussi, ce n'est pas contre ses propres citoyens qui n'ont pas commis de fautes. Lorsque vous voyez cette mesure qui n'a même pas d'exception, par exemple le cas des malades, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si vous êtes gravement malade, vous devez être évacué de Goma ou de Bukavu. Il faut d'abord vous amener, mourir sur la route de Goma, Beni, lorsqu'on sait que c'est 300 km, et dans les conditions de sécurité que je ne sais pas décrire, comme ce n'est pas ça la question d'aujourd'hui. Je crois que si vous demandez à un habitant de Bukavu qui doit joindre Uvira, et en tenant compte qu'il y a aussi des barrières, tous ces groupes armés qui équipent tous ces partis, à qui est-ce qu'on va s'en remettre si le gouvernement rejette ses propres citoyens qui n'ont pas commis de fautes, et s'en remettre aussi aux groupes armés dont on sait la discipline? Je crois que quelque part, le gouvernement est appelé à revoir cette mesure. Nous, comme société civile, nous croyons que nos opinions peuvent servir aussi le gouvernement comme conseil, même si des conseillers au niveau du gouvernement aussi peuvent déraper ou peuvent conseiller à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas favorables à la population. Je crois que le gouvernement aussi peut tenir compte des conseils de la société civile et de l'opinion publique.
Merci, Maître Joseph Dunia. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kapi. Destin Wan Milenge, vous êtes à Bukavu, Sud Kivu. Vous dites aussi, nous sommes très déçus de voir qu'après ce que nous vivons suite à cette invasion rwandaise, le gouvernement peut prendre une telle décision, c'est-à-dire que nous sommes sacrifiés depuis le début de cette crise. Kinshasa, le fait que nous rendre la vie presque impossible, ce qui prouve à suffisance qu'ils ne sont pas avec nous. C'est un point de vue d'un auditeur qui nous suit depuis Bukavu, Sud Kivu. Professeur Jocelyn Mubawa, vous êtes professeur à l'Université de Goma et à l'Université libre des pays des Grands Lacs, spécialiste en droit des médias et en droit de l'homme. Professeur, quelle lecture vous faites de cette décision prise par le gouvernement congolais?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. La décision pour vous
On a du mal à vous suivre, professeur. Est-ce que vous avez activé le mode main libre?
Non, pas du tout.
On essaie de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Parce que là, vous êtes en train de couper. Hein, la communication n'est pas
claire. Et là, vous m'entendez? Vous m'entendez parfaitement?
Allez-y. On va voir si ça s'est amélioré.
Et par là, c'est parce qu'il pleut abondamment pour vous. Un dernier peut faire pour vous. Par la pluie, oui.
Allez-y, professeur.
Merci beaucoup, madame Kelly. Je disais que normalement, le gouvernement est dans son droit de restreindre le droit à la liberté de mouvement.
On a du mal à vous suivre, professeur. On a du mal à vous suivre. La réalisation va essayer de vous rappeler. En attendant de vous redonner la parole, on va ouvrir le standard pour écouter ces Congolais qui nous suivent de partout, en RDC, même en dehors du pays. On va aller à Uvira, au Sud Kivu, pour écouter cet auditeur qui est déjà en ligne.
Bonsoir, Radio Kapi. Je suis Éloge depuis Uvira. Si le plan juridique, la RDC reste dans son droit de ne reconnaître que les documents émis par ses institutions officielles. Mais si le plan humanitaire est pratique, la mesure porte atteinte aux droits des milliers de Congolais pris au piège dans les zones contrôlées par les forces rebelles et risque d'aggraver les fractures territoriales et sociales. elle pourrait être perçue comme une forme de sanction collective, ce qui serait contestable au regard du droit international humanitaire. La mesure peut être juridiquement défendable en droit interne, mais elle pose un problème de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux au regard du droit international. Une approche plus équilibrée, assurant à la fois la souveraineté de l'État et la protection des droits des populations civiles, serait préférable.
Alors, Monsieur Valérie Makouanzal, comment vous réagissez après avoir écouté Maître Joseph Dounia et ses auditeurs d'Ouvira au Sud Kivu?
Merci. J'ai suivi avec une attention soutenue Maître Joseph Dounia, que je salue, en même temps que je salue toutes les populations en difficulté à l'est du pays. Mais je suis obligé de tempérer un tant soit peu ces ardeurs hein, quant à la aux arguments qui font état que les gouvernements auraient abandonné une partie de ces populations. Déjà, dans l'instruction qui a été donnée ne concerne pas les franchissements de frontières en partant des populations des territoires occupés de l'Est vers les pays limitrophes. Ces mouvements pendulaires-là ne sont pas contrôlés par le gouvernement congolais et ne sont absolument pas empêchés. Là où le gouvernement a tenu à réguler, à rappeler cette régulation, c'est pour les personnes qui prennent place à bord d'aéronefs qui viennent à Kinshasa ou à Lubumbashi dans les zones occupées par, contrôlées par le gouvernement de la République. Et n'oublions pas que nos ambassades dans ces pays limitrophes ont aussi un devoir de protection consulaire et de protection diplomatique. Donc nos compatriotes, lorsqu'ils arrivent dans les pays limitrophes, l'ambassade c'est comme leur maison. Alors lorsque le gouvernement demande à ses concitoyens d'aller chercher des documents dans son ambassade, je ne pense pas que ça doit être pris là comme une sanction qui soit infligé à ces populations-là. La sanction serait par contre de laisser ces populations être induites en erreur par des réseaux de criminels qui exploitent les documents de l'État à des fins criminelles et qui sont susceptibles de faire entrer des personnes des personnes dangereuses dans le pays. Donc je voudrais rappeler à Maître que nous sommes dans la législation sur les droits aéroportuaires. La législation est claire. Pour prendre place à bord d'un aéronef, les documents de voyage sont définis, ils sont clairs. Et si le gouvernement rappelle l'importance qui est de prendre place à bord des avions avec des documents réguliers, il ne s'agit pas là d'une mesure visant à punir nos concitoyens. Je voudrais donner un exemple pour finir, et peut-être pour rebondir sur l'exemple notre frère qui a appelé d'Ouvira. Pendant les conflits, nous avons fait état, le gouvernement a fait état du vol du matériel de la CENI. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a toute une série de cartes d'électeurs qui ont été établies. On ne sait comment. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer et vous non plus, vous ne saurez m'expliquer. Or, devant de telles réalités, le gouvernement est obligé de prendre des mesures pour que la sécurité du pays ne soit pas menacée. Et en le faisant, loin de chercher à punir ces populations, il vise plutôt à les protéger.
Alors, la réalisation me signale que le professeur est en ligne. Professeur, vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Alors, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, comment vous analysez-vous cette décision du gouvernement?
Merci beaucoup, madame. Le gouvernement, la décision du gouvernement serait légitime dans la mesure où vous répondez à tous les critères pour restreindre les droits à la liberté de mouvement de la population dans les zones occupées. Je parle au conditionnel parce qu'on doit d'abord analyser la décision sur les fonds le fond de la décision et sur la forme de la décision. Donc ce n'est pas aujourd'hui seulement que le pays connaît des situations difficiles de guerre. On en a connu depuis 1997 avec l'AFDR, le RCD et bien d'autres situations de guerre. Ça signifie qu'ici nous devons toujours rester dans le cadre légal, parce que d'après notre constitution, la RDC, c'est un état de droit. C'est la première phrase. La République démocratique du Congo est définie comme un état de droit, souverain, uni, indivisible, démocratique et laïque. Alors, il y a une situation de guerre qui se représente et on est obligé de restreindre les droits et libertés fondamentaux de la population. La Constitution ne l'interdit pas. Les différents instruments internationaux de protection des droits de l'homme n'interdisent pas non plus ces restrictions à la liberté de mouvement. Mais alors, on doit respecter les critères légaux. Notre constitution, par exemple, dit qu'on peut restreindre tous ces droits et libertés fondamentaux prévus à son titre 2, que qu'en cas de menace à l'ordre public, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, ou alors à la santé publique ou aux bonnes mœurs. La Constitution, tu l'as dit. Et alors la Constitution va toujours dire qu'il faut une loi. Une loi pour restreindre le droit et les libertés fondamentaux de la population, du citoyen. Ici, la DGM, la Direction générale des migrations, qui prend une décision, le conseiller juridique l'appelle une instruction. Alors, reste à savoir si c'est une loi, l'instruction, ou alors la circulaire, parce que je l'ai lu. Alors, s'il faut restreindre toujours la liberté de mouvement pour préserver la sécurité publique, la souveraineté nationale ou même l'intégrité du pays, il faut non seulement que cette restriction soit prévue par une loi au sens strict du terme, mais il faut qu'elle soit proportionnelle. Qu'elle soit proportionnelle. Et quand on parle de ces critères-là, le deuxième critère, donc, on vise pas mal de situations. Ça signifie que le besoin de restreindre la liberté de mouvement doit être un besoin réel et sérieux. C'est peut-être le cas ici avec la préservation de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale et tout ça. Mais alors, ces critères-là demandent que la mesure restrictive soit temporaire et qu'elle fasse régulièrement objet d'une évaluation. Et le troisième critère pour qu'on enfreigne à cette liberté, c'est le critère de nécessité. Le critère de nécessité dans un état de droit démocratique comme la RDC. Est-ce nécessaire de restreindre le mouvement et la liberté de mouvement de la population dans les zones occupées? Et c'est là, je crois, notre problématique. On en a eu avec la pandémie du Covid, on a été obligé, on nous a confinés partout dans le monde, et c'était normal. Donc, en RDC aussi, il y a la nécessité de protéger peut-être le pays, de préserver la sécurité nationale, c'est un impératif, tout le monde est laissé. Le pays fait face à une guerre. on doit maintenir l'ordre public, on doit répondre à pas mal d'exigences pour la survie et la survie de notre pays. Mais alors, parce que vous me demandez comment moi j'analyse la décision, ici, la décision pour moi ne serait pas aussi différente que la décision qui a été prise pour mettre le Nord Kivu ou alors la province de Ituri en état de siège, par exemple, en état de siège. Donc pour moi, il faut une loi. Une loi au sens strict du terme, une loi qui est claire, qui est précise, qui préserve aussi les droits et les libertés fondamentaux des populations de l'Est. Parce que la nécessité sociale ici de cette restriction ne facilite pas la vie aux populations des zones occupées, comme nous les appelons. Ça signifie qu'ici, vous avez des petits citoyens, par exemple, qui vivent du jour au jour et qui doivent aller chercher de la nourriture au Rwanda pour ceux qui font des Goma. Ils vont chercher à Gisenyi. Ceux qui sont de Bukavu, ils iront à Tiangougou, ou alors ceux d'Uvira, ils iront à Bujumbura. Ces gens-là, ces petits citoyens, comme on peut les appeler, et ne savent pas posséder un passeport. C'est toujours des personnes nantis, des personnes parfois cultivées, qui ont assez de moyens, qui ont besoin d'un passeport et qui peuvent facilement se déplacer à des centaines, voire à des milliers de kilomètres, parce que Goma, Kampala, par exemple, ça vous fait à peu près 1000 kilomètres. Vous ne demanderez pas à un petit citoyen dans le Mabanga de Goma, c'est un quartier de Mabanga, un quartier qui est qualifié de quartier de troisième rang.
Et donc pour vous, professeur, le gouvernement devrait revoir cette instruction.
Oui, une instruction en fait, mais je ne vois pas sa valeur juridique. En ce moment, la situation, c'est une situation générale. Il faut une loi qui est adoptée au Parlement, une loi au sens strict du terme. Mais alors, la loi, l'important, Madame Kelly, n'est pas de restreindre les mouvements, la liberté de mouvement des populations dans les zones occupées. C'est de trouver aussi d'autres solutions à la restriction, des solutions palliatives. D'abord, on peut restreindre, mais alors, on doit respecter la forme. On doit respecter la forme de restreindre les droits et libertés fondamentaux. Mais alors, quand on restreint, on doit se dire qu'il y a des hommes et des femmes dans ces zones et pas des animaux qui ont besoin de vivre, parce qu'ils en ont déjà assez avec les conditions de vie actuelles dans ces zones-là. Et là, alors, c'est le gouvernement de nouveau qui doit mettre des solutions idoines à la disposition de ces populations. Ça signifie qu'au lieu d'aller jusqu'à Kampala, le gouvernement s'arrangerait, par exemple, pour qu'il y ait un consulat de la République démocratique du Congo, tout près de ces populations. On aurait un petit consulat par un consulat à
Kisoro.
Kisoro, c'est la ville voisine.
Professeur, on va vous redonner la parole pour parler, par exemple, des mesures alternatives. Mais on va prendre d'abord ces auditeurs, ces Congolais qui veulent s'exprimer. On prend cet auditeur de Kinshasa. Qui est déjà en ligne. On va l'écouter très rapidement.
c'est John Bac Ngalamoulumé depuis la ville-province de Kinshasa. Cette décision est bonne si elle est prise avec beaucoup de rigueur et avec conséquences immédiates en cas de dérapage. La souveraineté d'un État ne se négocie pas, mais s'impose. L'État congolais devra renforcer ses mesures pour imposer du respect à tous et montrer aux rebelles qu'ils ne sont pas souverains malgré l'occupation de certains territoires.
Maître Joseph, comment vous réagissez aux propos de John qui appelle depuis Kinshasa, qui a appelé depuis Kinshasa?
Oui, madame la journaliste, merci pour la parole que vous m'avez accordée encore. Mais je voudrais préciser que c'est vrai que le gouvernement peut renforcer sa souveraineté, mais il faut tenir compte que la mesure qui a été prise, ce n'est pas une mesure qui sanctionne les rebelles. Il s'agit d'une mesure contre les droits des citoyens congolais qui sont à l'est du Congo. Et donc, je crois que c'est inapproprié, c'est inadéquat de voir que le gouvernement prenne une mesure qui restreigne ou qui préjudicie les droits de la population. Aujourd'hui, ça va rendre difficile la libre circulation. Ça va donner des fils à retordre aux opérateurs économiques, aux commerçants, parce que cette mesure est nuisible aux droits de la population, ce n'est pas nuisible aux rebelles. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui gêne le gouvernement de prendre une telle mesure, croyant que cette mesure, disons, complique les rebelles, et pourtant, c'est une mesure contre la population, parce que le gouvernement a déjà négocié à Doha avec l'AFC M23. Qu'est-ce qui va gêner le gouvernement de voir que le M23 délivre les documents en faveur de cette population? Ce n'est pas en faveur du gouvernement. Ce n'est pas un cadeau que le M23 donne au gouvernement à délivrer les papiers. Ils ne vont pas se donner des complications entre par protagonistes. Ils ne vont pas se donner des cadeaux. Donc il ne faut pas que le gouvernement croie que les rebelles vont seulement dire, écoutez, nous n'allons pas délivrer le document pour vous plaire, pour votre plaisir. Donc le gouvernement, s'il veut protéger la population, tiendra compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que le professeur Jocelyn Mubawa a expliqué les distances qu'il y a à parcourir entre Goma et Beni, ou bien entre Goma et Kampala, encore qu'il faut toujours passer par le Rwanda pour arriver à l'ambassade. Donc je crois que le gouvernement ne devrait pas avoir honte que les rebelles délivrent les documents du moment qu'ils sont en train de négocier à Doha. Donc, ils sont déjà des partenaires d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement est partenaire dans ces discussions avec l'AFC M23. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à se voiler la face. Mais,
troisièmement, puisque vous estimez que c'est une atteinte, c'est une atteinte à la liberté de mouvement, Maître Joseph Dounia, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour essayer de soulager cette population par rapport au voyage?
Tout à fait, je vois qu'il y a urgence d'annuler cette mesure, mais troisièmement aussi, il y a urgence que si les partis, les gouvernements et la CM23 aiment la population, qu'ils puissent presser, disons, la signature d'un cessez-le-feu et un acte d'engagement. Parce que s'il y a déjà des actes d'engagement, on peut considérer que les actes posés de part et d'autre peuvent être acceptables, surtout s'agissant des droits de la population, s'agissant du droit humanitaire pour les malades qui doivent se déplacer, s'agissant de l'intégration régionale, s'agissant de la promotion de l'entrepreneuriat. Sinon, on voudrait tout freiner ici pour que la population souffre davantage, souffre atrocement. Et je crois qu'il y a lieu d'appeler les gouvernements sous forme de conseils de revoir cette mesure, parce que cette mesure est nuisible et à la population, à la libre circulation, au commerce et tout ce que vous pouvez imaginer qu'un gouvernement peut donner de meilleur à sa population. Cette mesure est nuisible, elle est à lever sans délai, si je peux dire comme ça, mettre la pression au gouvernement.
Merci.
Moi, comme membre de la société civile, je peux encourager le gouvernement à revoir cette mesure, peut-être renforcer les mesures à l'arrivée, si on n'est pas membre des mouvements insurrectionnels, qu'on est porté des papiers comme ça, je crois qu'on ne veut pas en souffrir du fait qu'on n'est pas membre de ces mouvements.
Alors, monsieur Valérie Makwanza, est-ce que le gouvernement, ou disons la DGM, a mis en place des mesures alternatives ou des procédures spéciales pour les citoyens qui sont affectés par cette mesure?
Merci, madame. Bon, vous comprendrez que la plupart des arguments qui sont développés par les uns et les autres ne sont pas des arguments dont je pourrais me faire l'écho. Hein, parce que moi je suis un technicien, je viens parler des mesures qui sont prises dans le cadre de l'immigration. Hein. Donc tout ce qui concerne la politique ou autre ne fait pas partie de notre champ de compréhension du problème. Alors très rapidement, je voudrais quand même réagir à ce qu'a dit le professeur de Goma, qui disait que l'instruction pourrait se comprendre si elle était prise dans le cadre d'une loi. Je voulais lui rappeler que l'instruction est prise dans le cadre d'une loi. Et c'est la loi sur la police des étrangers de 1983 qui définit les conditions d'entrée sur les territoires de la République. Donc lorsque nous faisons une instruction comme celle-ci, nous ne faisons que rappeler des dispositions légales qui sont appliqués depuis presque d'une quarantaine d'années. Donc ça, il ne s'agit pas de faits nouveaux. Et au-delà de ça, la République démocratique du Congo est membre de plusieurs organisations sous-régionales, que ce soit la CEAC, que ce soit la CPGL, que ce soit l'EAC, qui aussi ont...
Alors, je vous interromps, excusez-moi, en parlant de l'EAC, on dit que la RDC est en train de mettre la pression sur les pays de l'EAC pour qu'ils n'acceptent que les passeports délivrés à Kinshasa. Vous pouvez confirmer ou affirmer cette information?
Je ne vois pas comment est-ce que la République devrait faire pression pour que des pays puissent n'accepter que les passeports délivrés par Kinshasa. Je ne connais pas d'autres autorités à l'intérieur du territoire qui délivrent les passeports, si ce n'est le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un euphémisme, en fait. Hein. On ne peut pas demander à l'État de faire pression pour quelque chose qui est naturel. Les passeports sont délivrés par le ministère des Affaires étrangères à Kinshasa et par nos ambassades à l'étranger. Donc je vois pas pourquoi
tenant lieu de passeport émis par ceux qui occupent Goma, Bukavu.
Oui, les tenants lieux de passeport émis par ceux qui occupent Goma et Bukavu ne sont pas des documents réguliers. Alors par la force des choses, nos populations peuvent les utiliser pour quitter les territoires de la République, pour entrer au Rwanda, pour entrer au Burundi, oui, mais la DGM rappelle que pour prendre un aéronef et venir par exemple à Kinshasa, il faut avoir un document régulier. Si on ne veut pas le passeport, si on ne veut pas un tenant de passeport régulier, nos ambassades sont là. Que ce soit à Kampala, et on est le 31 juillet aujourd'hui, cette décision a été prise le 6 juin. Au jour d'aujourd'hui, je suis conseiller juridique à la DGM, nous n'avons enregistré aucune plainte. Excusez-moi, c'est la première fois ici sur ce
plateau. En début d'émission, vous avez suivi notre reportage.
Oui, en réalité, c'est la première fois.
Il y a des
fois.
Gens qui ont été bloqués à l'aéroport
de Chine. C'est la première fois sur ce plateau que j'entende qu'il y ait des difficultés. Cette circulaire a été adressée aux compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes, en cas de difficultés sur la plateforme aéroportuaire, ils peuvent toujours se rapprocher de nos services pour trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser. Donc il ne s'agit pas d'une décision épidermique, il ne s'agit pas d'une décision visant à sanctionner des populations, il s'agit d'un rappel aux uns aux autres à respecter les dispositions de la loi et dans ce cadre-là, à collaborer pour que la sécurité du pays ne soit pas menacée.
On va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne. Lui nous appelle depuis la ville de Goma, au nord Kivu.
Oui, c'est docteur Michael Bolingo, CFDC, à partir de la ville de Goma. La mesure en soi est salutaire dans le but de protéger contre les infiltrations dans la zone sous occupation par les rebelles. Cependant, c'est une mesure qui doit être évaluée cas par cas. Par exemple, pour les personnes malades, les gens qui vont partir aux études, les humanitaires, ainsi de suite. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement congolais d'éviter de prendre des décisions par complaisance. L'idéal pour un gouvernement sérieux est d'étudier toutes sortes de mesures cas par cas. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté d'accéder à l'argent venant des pays étrangers, surtout nous qui sommes en zone sous-occupée. En difficulté aussi d'accéder à des passeports pour voyager, soit dans notre pays ou à l'étranger.
Professeur, juste une petite réaction, hein, parce que nous tournons vers la fin de l'émission, hein, petite réaction par rapport au propos de docteur Michel qui nous appelait de Goma.
Merci madame Kelly. Je suis partagé. Je disais qu'il y a un impératif de la sécurité nationale, un impératif de la préservation de l'intégrité territoriale, mais alors il y a des droits et libertés fondamentaux de nos populations qui sont en conflit avec cet impératif. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut chercher des alternatives de façon à permettre à ces populations des territoires occupés de vaguer librement, de circuler librement dans le pays qui nous entoure. On ne peut pas seulement limiter la réflexion au voyage dans les aéronefs. Ici, c'est une situation générale. Il y a d'autres personnes qui ont besoin, pas seulement les voyageurs, qui ont besoin de documents pour aller acheter à manger dans la ville voisine en face, ou alors un peu plus loin, en Tanzanie et ailleurs. Les fruits qu'on mange actuellement à demain viennent de la Tanzanie, par exemple. On chercherait des solutions, des alternatives à cette situation pour ne pas asphyxier les populations de ces zones-là. Ce sont des populations qui sont déjà asphyxiées. Quand tu te promènes dans la ville de Goma, tu vois la souffrance de nos compatriotes, de ces enfants qui circulent dans les rues. Il ne faut pas ajouter d'autres souffrances à celles qui tuent jour et nuit ces populations-là. Ça signifie qu'ici, on visiterait par exemple la théorie de l'autorité des faits. L'autorité des faits. Ça signifie que l'autorité Goma, Bukavu et les autres entités sont aujourd'hui gouvernées par les autorités de paix. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cette situation-là. Et précédemment, les gens du RCD, de l'AFDEL, avaient pris des actes, avaient délivré des documents qui circulent actuellement dans l'arsenal juridique de la RDC. Ça signifie qu'ici, on devrait, je parle au conditionnel, appliquer cette théorie-là de l'autorité de fait. Ça signifie qu'on tiendrait compte des documents de voyage que délivrent ces autorités de fait. Mais alors, de nouveau, le problème chez nous en RDC, c'est le contrôle de nos populations. On prend facilement la mesure, mais on a des difficultés pour maîtriser les contrôles à nos frontières ou alors même les contrôles dans les pays une fois que la personne a voyagé avec son passeport.
Alors, vous professeur, votre phrase en guise de conclusion, hein, la réalisation me signale qu'on a largement dépassé le temps, il faut conclure.
Merci, je vais chuter, madame. Ici, le problème, c'est de concilier les droits en jeu. Les droits, l'obligation de l'État à préserver la sécurité nationale, la sécurité publique, et les droits fondamentaux, les droits et libertés fondamentaux des populations dans les zones occupées. Il faut chercher des solutions qui concilient les deux droits en conflit. Voilà, c'est ma dernière phrase.
Merci, professeur Jocelyn Moubawa. Maître Joseph Dounia, votre conclusion. 30 secondes, s'il vous plaît. Maître Dounia, vous êtes en ligne? Je crois qu'on l'a perdu. Valérie Makwaza, qu'est-ce que vous dites à toutes ces populations, cette population du Nord et du Sud Kivu, qui pense que c'est une souffrance de plus, une souffrance de trop, cette instruction prise par le gouvernement? Comment rassurer cette population?
Oui, au vu des arguments que j'ai entendu développer ici, je pense qu'il y a une très grande incompréhension. Et lorsque les personnes qui sont censées expliquer les choses à la population ne comprennent pas très bien les mesures, c'est vrai que...
Vous êtes là pour éclairer
l'opinion. Ils induisent facilement l'opinion en erreur. Ici, il s'agit juste de rappeler que la loi doit être respectée lorsque les personnes doivent prendre place à bord des aéronefs pour venir en République démocratique du Congo. C'est tout simplement ça. Alors, ce qui se passe à l'est de la République, c'est que des autorités de fait, comme on les appelle, délivrent des documents avec lesquels nos concitoyens circulent. Nous n'avons pas une prise sur ces choses-là. Mais nous disons que pour venir à Kinshasa, prendre place à bord d'un avion, venir à Kinshasa, aller à Lubumbashi, à Kolwezi, il faut avoir un document régulier établi par les autorités de la République ou par les autorités qui sont dans nos ambassades.
Merci, monsieur Makwaza. Maître Joseph, vous êtes là?
Oui, je suis
en ligne. Alors, très rapidement, il faut conclure. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez.
Oui, je voudrais conclure en demandant au gouvernement d'annuler cette mesure qui est nuisible à la circulation de la population, qui empêche les malades à se rendre dans les hôpitaux. Je demande aussi à ce que le gouvernement puisse, permettre, favoriser le commerce pour les gens de l'Est, parce que cette mesure aussi va empêcher le commerce. D'ailleurs, on sait qu'il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de banque. C'est très difficile, parce qu'il est atypique pour un gouvernement de prendre des mesures qui nuisent à sa population, au lieu de prendre des mesures qui promeuvent sa population.
Merci.
Donc pour cela, je demande à ce que le gouvernement puisse annuler cette mesure.
Merci, Maître Joseph Dounia, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, Guy Maté, et donc Kiatoumbi, Jean-Claude Siala et Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur Radio Capitale.